J'aimerais ce matin vous raconter l'histoire d'un homme un peu crevé, un peu à plat, et aussi un peu énervé de l'être. Il aurait voulu la grande santé, l'énergie maximale et le cœur à l'ouvrage. Il aurait voulu l'énergie conquérante et l'envie de tout bouffer. Mais voilà, il est un peu crevé. Il a du mal à s'y mettre, il ne sait pas par quoi commencer, alors il ne commence pas. Il regarde par la fenêtre et quelque chose le surprend dans le ciel. La forme des nuages comme des petits personnages. Et un éclat bizarre dans le coton du ciel. C'est comme si la fatigue le rendait soudainement plus disponible à la contemplation. Comme s'il fallait qu'il arrête de courir pour ouvrir un peu les yeux. Dans le couloir, il croise un collègue qu'il n'aime pas trop et il lui semble que sa hâte, pour ne pas dire son zèle, ne sont soudain que vanité, ne sont soudain que servilité. Il sourit en songeant que tout vient de la poussière et y retournera. Ce collègue, il l'imagine maintenant en poule. Cette manière de hâter le pas dans le couloir avec un air d'importance, il voit maintenant une poule fuyant à l'approche d'une voiture. Il réprime un fou rire, puis s'y abandonne tout à fait. Ce doit être la fatigue, ce doit être ça. Calme de nouveau, il songe à Just a Perfect Day de Lou Reed. Cette chanson est un pur chef-d'œuvre. Lou Reed aurait-il pu l'écrire s'il n'avait pas été fatigué ? La fatigue parfois nous ouvre les yeux, nous rappelle à un peu de distance, à un peu d'humilité. Bien sûr, sa fatigue n'est pas celle de l'ouvrier épuisé par une tâche répétitive dans un hurlement de métal. Mais sa fatigue n'est pas non plus celle de l'artiste heureux de l'œuvre achevée, ni celle des amants épuisés par une nuit de plaisir. Non, sa fatigue, elle est entre les deux. Une fatigue ni scandaleuse ni merveilleuse, une fatigue ni aliénante ni délicieuse. Juste une fatigue humaine, mais qui induit quand même qu'on voit le monde autrement et peut-être qu'on se sent alors plus humain que jamais. Pour en parler ce matin, j'ai la joie de recevoir un philosophe fatigué. Peut-être parce qu'il est à la fois professeur à l'université Gustave Eiffel de Paris-Est, directeur du master d'éthique médicale et en même temps musicien, violoncelliste dans l'ensemble instrumental du Château Thierry. Peut-être aussi parce qu'il écrit des livres exigeants et délicats comme par exemple La pudeur, Le petit traité de dignité ou justement L'ode à la fatigue. Peut-être enfin parce que la fatigue est pour lui, sous certaines conditions que nous allons examiner ensemble, l'autre face d'une vulnérabilité sans laquelle nous n'aurions nulle beauté. Éric Fiat est avec nous ce matin sous le soleil de Platon et c'est une bonne nouvelle. Avec lui, nous allons nous demander ce qui distingue une mauvaise fatigue d'une bonne fatigue.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Éric Fiat.
Bonjour Charles.
Donc Éric Fiat, sous le soleil de Platon, ça va bien, c'est la lumière Fiat.
Mon Dieu, c'est un patronyme dont j'ai parfois un peu honte.
Ah bon ?
Ah bah oui, parce qu'on vous fait la blague Fiat Lux, que la lumière soit, et donc on attend de vous une lumière qui parfois ne vient pas.
Et bien là, on attend en effet la lumière sur la fatigue. Alors, c'est ce livre que j'ai entre les mains, Ode à la fatigue, c'est un assez vieux livre. C'est un livre qui a remporté à l'époque un beau succès de librairie. J'avais adoré ce livre. Il est très, très émouvant, et aussi il est très bien écrit. On peut le dire parce que ce n'est pas le cas de tous les philosophes. Vous êtes autant philosophe que musicien, philosophe qu'écrivain. Vous êtes d'ailleurs autant philosophe qu'imitateur, ça je le sais, mais je ne le dirai pas. Et donc, vous commencez... D'abord, comment ça s'est fait ? Pourquoi vous avez choisi d'écrire un livre sur la fatigue ?
Je pense, Charles, que vous serez d'accord avec moi pour dire que la définition de la philosophie qu'a donnée notre collègue André Comte-Sponville, pardon, est parfaite. Philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. Et réalisant que j'étais fatigué, qu'à chaque fois qu'on me demandait comment j'allais, je faisais état d'une fatigue, voire d'un épuisement, je me suis dit qu'il fallait que je philosophe sur ce que je vivais.
Donc vous avez connu des grandes fatigues. Alors, la distinction de votre livre au début, c'est qu'il y a des bonnes et des mauvaises fatigues. Dans votre cas, ce qui vous a lancé dans ce travail, c'était une bonne ou une mauvaise fatigue ?
C'était une fatigue intermédiaire, celle dont vous avez fort bien parlé dans le chapeau. Bien sûr, il existe de bonnes et de mauvaises fatigues, nous allons en parler, mais entre les deux, il y a évidemment tout un nuancier, tout un camailleux, tout un herbier, tout un nuancier de fatigue. Mais je crois en effet fondamental de dire que la fatigue n'est pas forcément un mal, parce qu'il existe de bonnes fatigues, et j'espère que nos auditeurs et auditrices la connaissent.
Alors justement, on y va. Vous distinguez donc dans ce qui s'appelle strophe. Le livre est construit quoi ? Un peu comme un livret, c'est ça ?
C'est-à-dire qu'une ode, vous vous en souvenez, cher Charles, une ode, c'est une forme poétique, qui était utilisée chez les Romains.
Ouais, j'avais oublié.
Et vous vous souvenez que les odes pindariques, par exemple, ont toujours trois parties, la strophe, l'antistrophe et l'épode finale. Dans la strophe, je parle des bonnes fatigues, voilà. Dans l'antistrophe, des mauvaises fatigues, et dans l'épode finale, des fatigues qui ne sont ni bonnes ni mauvaises.
Et donc, dans l'épode finale, il y a des leçons de fatigue, je crois qu'il y en a sept, mm-hmm. et je donne un peu le teaser pour que tout le monde ait envie d'écouter la suite. Mm-hmm. Deuxième leçon, où l'on apprend qu'un peu d'humilité, ça ne peut pas faire de mal. Troisième leçon, où l'on apprend que sans fatigue, il n'y aurait pas de courage, etc. Septième leçon, l'ode à la fatigue de Jean-Sébastien Bach. On va examiner ça tout de suite, mais commençons par le commencement. Expliquez-nous, professeur pédagogue que vous êtes, la distinction entre les bonnes et les mauvaises fatigues.
Pour prendre des exemples, je dirais que la bonne fatigue, c'est la fatigue du sportif vainqueur. C'est la fatigue des amoureux qui ont cueilli dans les bras l'un de l'autre toute la nuit les doux fruits d'amour. C'est la fatigue du travailleur qui, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année, a l'impression du travail bien fait ou du devoir accompli. Évidemment, ces trois personnages sont fatigués car ils ont dû donner beaucoup, de même beaucoup de leur force pour gagner le match, pour bien faire l'amour, pour bien travailler. Mais pourquoi ces fatigues sont-elles bonnes ? Eh bien parce que la joie de la victoire, chez le sportif, chez les amoureux, ce que j'appellerais le plaisir moral du devoir accompli chez le travailleur, sont déjà défatigants.
Défatigant, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'à mon avis, rien n'est plus défatigant qu'une joie. Je parle de la joie à quelqu'un qui en est le spécialiste, mais la joie, c'était considéré par les pères de l'Église comme la dilatatio animae de corpori. Ouais. Je ne parle pas latin pour avoir l'air savant, moi qui, la dernière fois que j'ai fait une version latine, ai eu 1 sur 60, mon Dieu. La joie, c'est la dilatation de l'âme et du corps, alors que l'angoisse, c'est la rétractatio animae et corpori, la rétractation de l'âme et du corps. Quand on est angoissé, on est centripète. Quand on est joyeux, on est dilaté, on est centrifuge. Ouais. Il n'y a plus que très peu de force dans le corps du sportif à la fin du match, dans le corps des amoureux qui sont aimés toute la nuit, dans le corps du travailleur qui a donné tout pour bien faire son métier. Mais ces forces sont dilatées par la joie. La joie est défatigante. D'accord, parce qu'elle a cette puissance dilatatrice que
mais c'est
vous
vrai.
Connaissez.
On l'a tous vécu. Hein. En fait, on est crevé parce qu'on a travaillé, parce qu'on n'a pas assez dormi. Et puis, la joie, en effet, comme vous le dites très bien, elle défatigue. C'est sûr qu'il ne faut pas avoir un bullshit job pour arriver à cette joie-là.
Bien sûr. La bonne fatigue, je dirais, ni vous ni moi ne sommes dualistes, mais ces trois personnages ont un corps fatigué, mais une âme qui ne l'est pas. La bonne fatigue, c'est une fatigue du corps, mais non point de l'âme. Car l'âme, au contraire, est rajeunie, défatiguée, rafraîchie par le souvenir d'une victoire à laquelle on ne s'attendait pas, par le souvenir d'une nuit d'amour où on a cueilli dans les bras de l'autre les doux fruits d'amour. Je suis tellement content de cette formule que je l'emploie dès que je peux, cueillir dans les bras de l'autre les doux fruits d'amour. Et par conséquent, fatigue du corps, mais non point fatigue de l'âme. Les bonnes fatigues, c'est aussi les fatigues qu'on se choisit, vous voyez. Il y a des fatigues qui nous sont imposées et elles sont rarement bonnes. En revanche, les fatigues que nous choisissons ont toute chance d'être bonnes. Personne n'oblige un de mes frères à faire en vélo les petites routes qui sont assez pentues, de Corrèze le dimanche matin. Il fait 80 km. Il revient, il est fatigué, mais c'est une bonne fatigue parce qu'il l'a choisie.
Alors on va écouter la fatigue d'Alexandre le Bienheureux et essayer de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise fatigue.
Ne bouge pas comme ça, tu me fatigues. Ah. Toi aussi, il faut que tu remues, tu cavales. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ? On a le temps, faut prendre son temps. Faut prendre le temps de prendre son temps. Ils s'endorment fatigués et ils se réveillent plus fatigués encore. Et ça continue. Et ça n'en finit pas de durer d'être pareil.
Alors, celle-là, bonne ou mauvaise fatigue ?
Bonne, évidemment, parce que l'histoire d'Alexandre le Bienheureux, c'est l'histoire d'un paysan que sa femme, la grande, épuise. Il souffre de somnolence diurne, il a envie de dormir et elle l'empêche de dormir. Il est sur son tracteur, il commence à piquer du nez, et la grande claque dans les doigts et il est obligé d'aller curer les écuries, biner les pommes de terre. Ouais. Même le soir, quand il se couche, espérant dormir, sa belle lui demande l'étreinte. Bon, et voilà que cet homme épuisé va connaître cette mésaventure. Sa femme meurt dans un accident de voiture. Tout le village défile devant l'endeuillé et on demande à Alexandre, joué par Noiret, ce qu'il va faire. Et Noiret répond avec sa voix de violoncelle ou sa voix de basson.
Dormir, dormir.
Et là, il se couche et il récupère de toutes ses fatigues. Mais là, la scène que vous avez fait écouter, c'est après qu'il s'est levé, mais non pas pour travailler, mais pour contempler. Et ma foi, il n'est même plus fatigué. C'est une leçon de vie avec une morale toute mitterrandienne.
Il faut prendre le temps de prendre son temps.
Il faut laisser du temps au temps. Alors, c'est il y a aussi des très belles pages, on est toujours dans les bonnes fatigues, hein, notamment sur l'éloge de la nage et de la marche.
Mmh. Ah oui, oui, j'ai trouvé un très beau texte de Marguerite Duras, il y en a, qui parle de la nage. Et oui, on peut donner comme conseil, hein, même si les philosophes ne sont pas là pour donner des conseils, à nos auditeurs ou nos auditrices, de choisir leur fatigue. Et nager alors que personne ne vous y oblige, marcher alors que personne ne vous y oblige, c'est aussi reprendre contact avec la saveur du monde et aussi avec une corporéité que l'homme agité d'aujourd'hui a tendance à oublier. Oui, j'ai un corps qui n'est pas qu'un instrument servile. Il peut m'apprendre de belles leçons si j'écoute ses fatigues.
Il peut aussi m'indiquer une limite, finalement.
Oui, bien sûr, une limite, d'où cette humilité, si vous voulez. Je crois qu'une fatigue assumée plutôt que combattue peut nous apprendre cette belle leçon qu'est l'humilité. C'est-à-dire que nous sommes des êtres humains faits d'humus. Nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas des dieux grecs, nous ne sommes pas des lutins ou des fées, tout personnage qui ne connaissent pas la fatigue.
Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home.
Alors on aura envie de l'écouter en entier, évidemment, cette incroyable chanson qui dit à sa façon tout ce que vous venez de dire. La limite, l'humilité, le renoncement à la toute-puissance, la beauté penchée, la beauté dans la vulnérabilité, et au cœur de cet accueil, quelque chose de merveilleux.
Je ne la connaissais pas. J'ai envie d'écouter.
Alors vous êtes un musicien classique.
Oui, pardonnez-moi. Oui.
Mais ça, vous trouvez ça beau ?
Ah, je trouve ça magnifique. Oui.
Je suis content de vous faire découvrir.
Écoutez, je ne la connaissais pas, et en plus, puisque je suis absolument nul en anglais, je ne comprends pas forcément le texte.
Alors écoutez, on réécoute.
Oui, très bien.
Donc c'est l'histoire d'un homme, je vous traduis.
Oui, traduisez-moi.
C'est une journée banale. Il va nourrir les animaux au zoo, il retrouve des amis, mais en fait on sent qu'il a fait beaucoup d'excès la veille. Il n'a pas beaucoup dormi, il a cette fatigue dans son corps, il a les yeux qui brûlent, il est à fleur de peau, et il est sensible à tout, et il est ouvert, et il est disponible, et il est fragile, mais il aime ça. C'est un peu votre livre, non ?
Ah oui, tout à fait. Je crois en effet qu'une fatigue assumée plutôt que combattue peut nous permettre un rapport autre à nous-mêmes, aux autres et au monde. Au fond, un rapport de rêverie. Dans le beau chapeau que vous avez proposé tout à l'heure, le mot rêverie ne s'y trouvait pas. Mais celui qui ne joue pas la comédie de l'infatigabilité, celui qui avoue sa fatigue, en effet, se pose quelque part. Et il instaure un rapport plus doux à lui-même, aux autres et au monde. Un rapport de rêverie.
Comme Emmanuel Macron, quoi.
Vous savez, tout dirai rien.
Tout son entourage répète sans cesse, il n'est jamais fatigué, il est infatigable, il dort 3 heures par nuit, il connaît ses dossiers. Et on a l'impression que les puissants doivent montrer une apparente infatigabilité, comme pour montrer qu'ils sont puissants et que finalement... ils doivent apparaître comme un fatiga, comme si c'était un attribut du pouvoir, finalement, d'apparaître jamais fatigué.
Oui, mais un jour, il le sera. Et dire qu'on n'est jamais fatigué, c'est évidemment mentir. La fatigue fait partie de la condition humaine comme telle. Dans ce livre, en effet, j'utilise la fable de La Fontaine, le chêne et le roseau.
Ah bah oui.
Et je propose que face à nos fatigues, nous soyons roseaux plutôt que chêne. Le roseau plie, mais ne rompt pas. Hein, vous souvenez de cette fable où le chêne, qui joue la comédie de la puissance, qui joue la comédie, en effet, de l'éternelle puissance. Il y a des êtres humains qui jouent la comédie de l'éternelle jeunesse, de l'éternelle infatigabilité. Eh bien, ma foi, on rendez-vous avec la vieillesse, on rendez-vous avec la fatigue. Et vous savez, le chêne méprise le roseau. Un roitelet, vous êtes un puissant fardeau. Tous mes zéphyrs, tout vous semble à Aquilon. Zéphyr, c'était un petit vent. Aquilon, un gros vent. Et le roseau dit au chêne, quittez ce souci, les vents me sont moins qu'à vous redoutables, je plie, mais ne romps pas. Ben moi, je ne joue pas la comédie de l'infatigabilité, quand je l'avoue, je plie, mais à ce moment-là, j'ai un rapport, je trouve, beaucoup plus riche à moi-même, aux autres et au monde, que quand je joue la comédie de l'infatigabilité, le monde cesse d'être un objet à conquérir, mais plutôt une fragilité à protéger.
Bien sûr, et ce sera une belle transition pour ce qu'on évoquera tout à l'heure, les mauvaises fatigues, le burn-out notamment, quand on a justement trop joué la comédie de l'infatigabilité et que finalement on craque et qu'on est rattrapé parce qu'on n'a pas su plier, parce qu'on n'a pas su être un roseau. Et d'ailleurs, ce sera aussi toute cette sagesse-là qui est, ça me fait penser à ces petits-enfants épuisés qui disent « je suis pas fatigué », alors qu'ils sont crevés, qu'ils ont des larmes dans les yeux, ils ont besoin de dormir, mais ils répètent, un peu comme Emmanuel Macron finalement, qu'ils sont pas fatigués. On va écouter, en attendant d'aborder les mauvaises fatigues, une autre voix sublime dans sa fatigue même, Leonard Cohen.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. To travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
C'était Leonard Cohen, Suzanne.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec le philosophe et violoncelliste Éric Fiat et nous parlons de votre livre « Ode à la fatigue » aux éditions de l'Observatoire et de cette très jolie thèse qui est la vôtre, que la fatigue nous humanise, que la fatigue nous ouvre à la rêverie, que la fatigue nous descende, que la fatigue nous rend plus humbles et plus capables de contempler. Mais quand même, il y a aussi des mauvaises fatigues. Alors pour l'instant, on ne leur a pas fait assez de place. On est parti, je dirais, bien en tête sur les bonnes fatigues. On a écouté Alexandre le Bienheureux, Lou Reed et Leonard Cohen. C'était bien, mais maintenant, on va changer de ton. Parce qu'il y a aussi, cher Éric Fiat, des mauvaises fatigues.
Mais oui, nous allons en parler, mais si vous me le permettez, je reviens un tout petit peu en arrière, parce que je ne connaissais pas cette chanson de Lou Reed.
Oui, alors c'est vrai que j'explique pour les gens, c'est assez dingue de ne pas la connaître, c'est une des plus belles chansons de tous les temps, mais vous êtes à fond dans la musique classique,
oui.
Et vous jouez, ce n'est pas une plaisanterie, vous, dans un ensemble orchestral de Château-Thierry, vous donnez plusieurs concerts par an, vous répétez de façon quasi-professionnelle, quoi, vous êtes violoncelliste, et donc on vous pardonne.
Oui, je dis toujours, je suis violoncelle solo d'ensemble instrumental de Château-Thierry, c'est normal parce que je suis le seul. Mais sur un CV, sur un curriculum vitae, ça fait bien de dire violoncelliste solo d'ensemble instrumental. Ouais. Non, c'est vrai que j'écoute de la musique classique, je suis un peu un vestige pittoresque. Ouais, c'est une expression que j'ai piquée à Michel Drucker pour me définir moi-même, vous voyez où on en est.
Ouais.
Mais alors, en revanche, Leonard Cohen, là, je connaissais cette chanson et je trouve ça absolument génial, mais je vous ferai un petit reproche, il aurait peut-être fallu la faire entendre par un Leonard Cohen plus vieux.
C'est
parce qu'il y a des versions live avec une voix plus fatiguée où c'est encore plus bouleversant.
Je précise pour nos auditeurs que vous êtes avec une veste. Sur cette veste, il y a un très joli petite très jolie broche qui représente un renard, que vous avez des bagues de toutes les couleurs, que vous avez les cheveux longs et une chemise très ouverte, pour qu'on comprenne un peu qui parle, et que c'est vous qui venez nous parler de fatigue. Alors venons maintenant aux mauvaises fatigues.
Oui, j'en suis à l'âge des accessoires.
Ouais.
Oui, les mauvaises fatigues. Alors, par facile symétrie, pardon, nous pourrions dire que la mauvaise fatigue, c'est la fatigue du sportif vaincu, des amoureux qui ne sont pas arrivés à bien cueillir dans les bras l'un de l'autre les doux fruits d'amour, du travailleur qui est à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année, a l'impression du travail mal fait ou du devoir accompli. Et ces personnages-là connaissent mauvaise fatigue, car ce n'est pas simplement leur corps qui est fatigué, c'est aussi leur âme. Hein. Et la forme la plus grave de la mauvaise fatigue, c'est en effet l'épuisement, je dirais, lorsque la nappe phréatique du soi elle-même est tarie. Et alors, on essaie de remédier à cette fatigue par le repos. Mais malheureusement, même le repos n'est pas un remède à la mauvaise fatigue. Car celui qui tombe d'épuisement, tombe de sommeil. C'est pas la bonne fatigue, c'est pas le bon repos dans lequel se dit justement Philippe Noiret dans Alexandre le Bienheureux, ou Montaigne, qui aimait tellement dormir qu'il se faisait réveiller pour avoir le plaisir de se rendormir. Non, c'est la fatigue dans laquelle on tombe comme une masse, puis on se réveille et on a des moments d'insomnie, ce que Baudelaire appelle ces vagues terreurs de nos affreuses nuits qui compriment notre cœur comme un papier qu'on froisse. Il paraît qu'il n'y a jamais eu autant d'insomniaques que depuis la Covid, et que beaucoup d'Occidentaux, en effet, dorment mal, connaissent de mauvaises fatigues plutôt que de bonnes fatigues. Et je ne vois pas de remède à ce genre de mauvaise fatigue, puisque le repos lui-même n'est pas un remède. Elle a quelque chose de terrible. Elle est très courante aujourd'hui. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est plus fatigué qu'avant ?
Au Moyen-Âge, on appelait ça l'acédie ?
C'est l'acédie, oui, tout à fait. Oui, alors l'acédie, c'était en effet l'acédia. C'était une sorte de maladie qui arrivait souvent aux moines après 6-7 ans d'entrée dans le monastère. Et c'est une espèce de lassitude générale, d'épuisement, de dégoût, de perte de la vocation. Et un certain Saint Jean Climaque, qui va devenir l'auteur de chevet de tous nos auditeurs et auditrices, dit quelque part que, écoutez ça, chaque péché a sa vertu correspondante dont la pratique permet d'en limiter les effets. Mais l'acédie est le pire de tous les maux. C'est une mort pour le moine. Alors en effet, chaque péché a sa vertu correspondante. On lutte chez les moines contre la luxure par la chasteté. On lutte contre la gourmandise par la frugalité. Mais qu'opposé à cette fatigue ? C'est ça qui est terrible. La fatigue est un ennemi qu'on ne peut pas combattre, parce qu'on peut combattre un ennemi quand il se présente face à soi. C'est ainsi que David l'a emporté contre le puissant Goliath. Mais la fatigue, elle nous enserre de tous côtés, dit encore Saint Jean Climaque. Car la fatigue, elle vient d'en haut. Et on dit qu'on sent le poids de la fatigue sur les épaules. Elle vient de derrière, et on dit qu'on en a plein le dos. Il y a même une autre expression plus vulgaire que je n'emploierai pas. Elle vient d'en dessous, c'est-à-dire qu'on tombe de fatigue. Comment voulez-vous lutter contre cet ennemi qui, en effet, vous enserre de tous côtés ?
Et de l'intérieur.
Oui, bien sûr. Et au fond, il faudrait être peut-être un saint ou un héros pour arriver à continuer d'être comme on veut être alors qu'on est épuisé de fatigue. Corneille dit à propos du Christ, il sait dans la fatigue être sans lassitude. quelques charges qu'il porte, il n'en sent point le poids. Il sait rendre léger les plus puissants fardeaux. Voilà pour le saint. Et le héros, je raconte, vous savez, ce héros un peu magicien qui était le baron de Munchausen. Oui. À un moment, il arrive dans une clairière, il s'y avance d'un pas sûr. Malheureusement, les sables y sont mouvants. Et il s'enfonce progressivement dans les sables mouvants. Le sable mouvant, c'est une bonne métaphore de la fatigue parce que ça vous enserre de tous côtés. Alors la tête essaie de résister, mais à un moment, elle passe avec le reste. Et vous savez comment ce héros magicien qui était le baron de Munchausen s'est sorti des sables mouvants de la fatigue, en se tirant lui-même par les cheveux. Et il sort de ces sables mouvants, même pas mal, mais non.
Mais il ne faudrait pas. On a compris que c'est justement pas un bon conseil.
Ben non.
On a besoin des autres.
Et c'est ça. On ne peut se tirer des sables mouvants que si on a une branche. Ce dont nous avons besoin, ne jouons pas les héros ou les saints. Nous ne sommes ni héros ni saints. Quand nous sommes fatigués, il y a quelque chose qui s'altère en nous. Et nous avons besoin d'une branche. Là, nous avons besoin de la main d'autrui. Que je puisse avouer à mes collègues, à mes amis, que je suis fatigué sans être immédiatement jugé.
Et c'est là le moment de préciser que votre travail. C'est l'éthique médicale, c'est la question du care, c'est la question du soin, c'est la question de la dignité. Vous dirigez un master sur ce sujet, vous avez beaucoup travaillé sur ces questions. Beaucoup de vos autres livres parlent de ça, prendre soin dans la dignité. Qu'est-ce que la dignité? Et justement, il y a des solutions. Quand on a cette mauvaise fatigue, la fatigue de s'être trahi dans un métier insupportable, la fatigue de n'être pas respecté, la fatigue de n'être pas regardé, la fatigue d'être soi, dont parlait Alain Ehrenberg dans un très bel essai il y a 25 ans. Et c'est là qu'on comprend que la volonté n'est pas toute puissante. Et votre livre est aussi une réflexion sur l'impasse du volontarisme. Le « quand tu veux, tu peux ». Voilà. Eh ben non, parfois on n'en peut plus, et justement on a besoin d'une main tendue.
Tout à fait, vous m'avez très bien compris, je vous en remercie beaucoup. Et en effet, vous me demandiez au début de notre rencontre, notre causerie, ce qui m'avait donné envie d'écrire sur la fatigue. C'est pas simplement la mienne, c'est aussi celle de mes étudiants et de mes étudiantes. Parce que dans ce master de mention philosophie, parcours éthique médicale et hospitalière appliquée, nous accueillons des professionnels du soin. Ouais. Et en effet...
Expliquez un peu quand même, donc vous leur faites de la philosophie.
C'est ça, on fait de la philosophie avec eux, avec elles. C'est un public absolument extraordinaire.
Donc des infirmières, des médecins,
des assistants. Des kinésithérapeutes, voilà. Ostéopathes, directrices d'EHPAD, assistantes sociales dans le monde hospitalier. Et ils viennent volontairement de faire de la philosophie. C'est d'un public absolument extraordinaire. Je n'ai pas de plus grande joie, enfin professionnelle, parce que rassurez-vous, j'ai des joies privées. Je n'ai pas de plus grande joie professionnelle que quand, par exemple, une infirmière me pose cette question. Comment puis-je bien soigner un malade que je n'aime pas?
Voilà, ça c'est une vraie question.
Eh bien, je me souviens d'un texte de Kant, où Kant distingue entre l'amour et le respect. Où Kant dit que l'on peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas. On travaille ce texte avec cette étudiante. Kant ne parle absolument pas du soin. Hein, et pourtant, la distinction kantienne entre le respect et l'amour peut peut-être aider cette infirmière épuisée à bien soigner malgré tout un patient qu'elle n'aime pas.
Et ça veut dire aussi que parfois l'amour ne suffit pas pour soigner, pour prendre soin, parce que l'amour ne nous dicte pas nécessairement les bons gestes, les gestes précis.
Oui, bien sûr. Et puis, il fut une époque où on attendait des soignants et des soignantes qu'ils aiment, qu'ils aimassent leur patients. Ouais. C'était l'époque où on finissait sa vie à la charité, où on devait être traité par charité. La charité, vous savez, c'est pas simplement donner de l'argent, c'est aussi aimer. C'est la traduction en français du latin caritas, qui est la traduction en latin du grec agapé, une des trois formes de l'amour. Tous les malades ne sont pas aimables, si vous voulez. L'amour est toujours célébration, jubilation, bénédiction. Dire à quelqu'un « je t'aime », c'est célébrer le fait qu'il soit et qu'il soit comme il est. C'est bénir son existence. Je dis qu'il est bien. Benedictus, je dis qu'il est bien. Bon. Or, avouez qu'il doit être difficile à une infirmière, par exemple en EHPAD, de célébrer, de bénir, de jubiler à l'endroit de chacun et de chacune de ses patients. Non, il y a des moments où c'est difficile. Or, le respect est moins... Il est plus facile de respecter tous ses patients que de les aimer, car le respect, lui, ne célèbre rien. Oui, j'ai eu envie d'écrire là-dessus aussi, parce que c'est dans le monde du soin qu'il y a de plus de burn-out, justement.
Hein. Ben oui. Alors, c'est le trouble vicariant, c'est quand ceux qui soignent deviennent malades.
C'est ça. Oui. Et alors, en effet, il est peut-être facile d'être à la hauteur des grandes valeurs de l'éthique, un beau matin de mai, quand vous êtes une infirmière en pleine forme et que vous rencontrez un patient reconnaissant et gratifiant. Sans doute beaucoup plus difficile, un triste après-midi pluvieux de novembre, quand vous êtes une infirmière épuisée, que vous rencontrez un patient agressif, si vous voulez. Et en effet, je crois que si c'est dans le monde du soin qu'il y a plus de burn-out, c'est certainement parce que souvent les soignants n'osent pas se plaindre. Je vais pas me plaindre, bien sûr je suis fatigué, c'est un métier difficile, mais quand même je suis sur mes deux jambes et j'ai tous mes cheveux, peut se dire l'infirmière qui va soigner une dame découronnée par la chimiothérapie et qui va bientôt mourir. Et une fatigue qui n'est pas avouée, qui ne peut pas se dire, souvent s'aggrave de n'être pas dite, si vous voulez. J'aime beaucoup cette expression de la langue française qui dit qu'une lettre qui n'est pas arrivée à son interlocuteur est une lettre en souffrance.
Oui.
Alors on n'écrit plus de lettres aujourd'hui, mais c'est une belle expression. Si vous renversez l'expression, vous comprendrez qu'il n'est pas de pire souffrance que celle qui ne rencontre pas son destinataire, hein, ou qui rencontre un destinataire indifférent. Oui, on ne se sort pas des sables mouvants de la mauvaise fatigue et du burn-out par un effort de la volonté.
Et d'ailleurs, ça voudrait dire aussi qu'il faudrait que la société prenne soin
des soignants,
mieux de ceux qui prennent soin.
Mais bien sûr. Et alors, c'est là, si vous voulez, où l'éthique doit passer le relais à la politique. Parce que pourquoi tant de nos contemporains sont-ils fatigués?
Notre époque est si fatigante?
Oui. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, attention, je pense que la fatigue a toujours existé. Et résistons au charme de la nostalgie, ce qui veut dire qu'elle n'en manque pas, qui nous conduira à dire qu'avant, les gens prenaient le temps de vivre.
Non, bien sûr.
Bon, vous savez, lorsqu'il m'arrive d'être tenté par les charmes de la nostalgie, par exemple, lorsque je dis « on ne peut plus circuler dans Paris », je ne dois pas oublier que Boileau a écrit au XVIIe siècle un livre qui s'appelle « Les embarras de Paris », où il dit quoi ? « On ne peut plus circuler dans Paris ». Quand il m'arrive de dire que les êtres humains ne prennent plus le temps de vivre, je ne dois pas oublier qu'au 1er siècle après Jésus-Christ, un certain Sénèque a écrit un « De brièvitate vitae », de la brièveté de la vie, 1/60 en latin, maintenant je peux traduire, où il dit quoi, Sénèque ? Eh bien qu'avant les Romains prenaient le temps de vivre. Non, les gens étaient fatigués, regardez la vie des paysans encore dans ma Corrèze d'origine dans les années 50, c'était la vie de pauvre Martin, pauvre misère de Brassens, vous vous souvenez de cette chanson ? Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un doux chant, avec au cœur un grand courage, il s'en allait trimer au champ. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps.
Ouais.
De l'aurore jusqu'au couchant, en tous lieux, par tous les temps, il retournait le chant des autres. Hein, puis les dernières strophes qui sont bouleversantes. Et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier chant, il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant. La vie devait être très fatigante pour que les paysans la quittassent si tôt. Cassé, courbé, prostré, comme s'il devait se prosterner devant la déesse Terre. Donc il y a toujours eu des fatigues, mais elles ont changé. Je crois que leur fatigue était plutôt du corps, et nous, des fatigues plutôt de l'âme. Et ces fatigues de l'âme viennent du fait, je crois, que le monde s'accélère. On nous demande de nous adapter de manière permanente à un monde impermanent. Je n'étais pas clair, vous me le diriez.
Non,
le monde ne cesse de changer, et pour y bien figurer, pour être en marche, vous citiez un certain homme... Qui voudrait que nous le fussions toujours, eh bien, pour être en marche, il faudrait justement toujours s'adapter de manière permanente à un monde impermanent. L'animal qui symbolise l'adaptabilité, c'est le caméléon. Mais on dit qu'un caméléon qu'on met sur un patchwork devient fou. Bah oui, je dirais que beaucoup d'entre nous ont l'impression d'être des caméléons qu'on met sur des kaléidoscopes. Alors c'est encore pire parce que le patchwork a plusieurs couleurs, mais elle ne change pas de lieu. Le kaléidoscope, les couleurs... Et alors en effet, obsolescence des objets, les ordinateurs, toutes ces choses. Alors là, j'ai parfois envie de... J'éprouve quelque chose, si vous voulez, comme un point aux côtés de l'âme. J'essaie de courir aussi vite que ce monde, et puis à un moment, je me mets sur le côté. Mais
et
là,
vous,
j'écouterai maintenant Lou Reed, et ça ira beaucoup mieux.
Lou Reed, ou alors Junior, qui chante justement « Amour ».
Si rien n'est sûr, on y prend goût. Pour toujours à jamais l'infini. Qu'importe si on en voit le bout avant la tombée de la nuit. Si rien ne dure, on y joue. Au grand amour. We'll be right back.
d'aventure en somme ado. Au grand jour, au détour d'un semis, on risque le tout pour le tout.
Amour fou.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Nous sommes toujours avec le philosophe et violoncelliste Éric Fiat. Nous parlons de la fatigue. Vous avez distingué les bonnes et les mauvaises fatigues. On a bien compris cette distinction. Je voudrais maintenant lire un extrait de votre très joli livre, Ode à la fatigue. Franchement, c'est parfait pour la plage. C'est parfait aussi pour d'autres contextes. Je vais vous lire pour qu'on comprenne qu'une fois que vous avez fait, c'est votre méthode de philosophe, vous avez bien distingué et puis vous montrer que la vie, c'est le mélange. Je vous lis, Éric Fiat. La troisième chose que je tentais de dire est qu'entre ces bonnes et ces mauvaises fatigues se trouve un dégradé, un nuancier, un herbier de fatigue qui font partie de l'humaine condition et dont nous pouvons nous faire des amis si nous les assumons, c'est-à-dire si nous ne luttons pas contre elles, mais écoutons ce qu'elles ont à nous apprendre, étant face à elles roseau plutôt que chêne. Entre les fatigues qui forment et les fatigues qui déforment, il y a des fatigues porteuses de douces leçons, des fatigues qui nous donnent, ainsi qu'à ceux que nous aimons, une grâce fragile qu'il est possible d'aimer, au point d'aimer la ride qu'elles mettent sur leur front et le grain de sel qu'elles mettent à leurs cheveux. Alors Éric Fiat, on comprend bien sûr cette idée du nuancier, on va en parler après, mais d'abord, cette musique de Bach, tellement belle, vous la présentez un peu de façon surprenante comme une ode à la fatigue.
Oui, parce que c'est un chœur là qui chante et qui vient douce mort, vient bon repos. Je pense que, moi, comme vous disiez, j'ai choisi entre la littérature et la philosophie, mais de temps en temps, je regrette de ne pas dire les choses si merveilleusement qu'à Jean-Sébastien Bach. Hein. Et il y a dans ce chant, dans la douceur de ce chant, quelque chose comme une fatigue assumée, comme une assomption de la fatigue. Et même
c'est
si...
christique un peu ?
Oui, un peu christique, oui. Oui, oui. Oui, mais il n'est pas nécessaire d'être chrétien pour comprendre qu'il est dit quelque chose d'anthropologiquement juste. Hein. C'est qu'en effet, nous ne sommes pas... la fatigue fait partie de la condition humaine. Ayons l'humilité de l'avouer. Je disais tout à l'heure, une machine s'use, mais ne se fatigue pas. Un ange, c'est infatigable, on imagine pas. Il paraît que les anges se déplacent à la vitesse de la pensée. Ça veut dire très vite, de me dire, ça dépend pour qui, parce qu'il y a des besogneux de la comprenette. Mais quand même, la pensée, ça va extrêmement vite. On n'imagine pas que l'archange Gabriel puisse être fatigué. Enfin,
mais l'animal
Je vais venir à l'animal. Nous ne sommes pas des dieux grecs. Les dieux grecs sont infatigables. N'imagine pas Zeus ayant un petit coup de mou. Alors que je remarque que le dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob, le dieu de Luc, de Matthieu et de Jean, le dieu de Mahomet, Mohamed, le dieu de Jean-Sébastien Bach a connu la fatigue. Hein, parce qu'il faut un Shabbat, le vendredi pour les musulmans, le samedi pour les juifs, le dimanche pour les chrétiens. Ouais. C'est ça. Dieu a dû se reposer. Donc c'est presque une façon pour les êtres, pour lui, qui n'existe sans doute pas, de dire aux êtres humains, mais reposez-vous aussi. Nous ne sommes pas des lutins, des elfes, c'est-à-dire des êtres qui sont mieux qu'en forme, puisqu'ils jouissent d'une extraordinaire puissance métamorphique. Ils peuvent changer de forme. Hein, le contraire de la forme, c'est la fatigue. Le contraire de la fatigue, c'est la forme. Mais les lutins, les êtres féeriques, ils peuvent changer de forme. Ils étaient renards, ils deviennent oiseaux, ils deviennent
nuages. Vous parlez de lutins, vous animez soudain?
Ah oui, parce que j'aurais aimé être un lutin, peut-être. Mais non, je ne suis qu'un être humain. Et puis, c'est très, très, très bien.
Alors, la fatigue serait le propre de l'homme?
Alors... non, parce que les animaux connaissent la fatigue.
Mais je crois que eux, dès qu'ils sont fatigués, ils dorment.
C'est ça.
Et nous, on n'a pas le droit.
C'est ça. Ben non.
On n'est pas des chats.
Ben oui, on n'est pas des chats. L'autre jour, ma fille me demandait une nouvelle de mon chat. Il n'a rien fichu de la journée. Mais pour prendre une distinction que peut-être vous ne prendrez pas à votre compte, vivre et exister. L'homme ne fait pas que vivre. Il fait aussi le dur métier d'exister. C'est difficile d'être un homme, mais c'est aussi formidablement exaltant, si vous voulez. Pourquoi ?
Parce que c'est fatigant.
Mais oui, c'est fatigant, parce que l'humanité, c'est une tâche. L'humanité est à la fois un don et une tâche. Elle est un don puisqu'elle est donnée à tous les êtres humains, en égal partage, hein, qu'on soit handicapé ou pas, qu'on soit intelligent ou pas, elle est un don, elle est donnée à tous les êtres humains. Mais elle est aussi une tâche, parce qu'il s'agit de faire l'humanité en soi. L'humanité n'est pas dans l'homme, comme la roséité dans la rose, ou la facochéricité dans le facochère. L'humanité, c'est aussi une tâche. Et donc, je dois me rendre plus humain. Et voilà pourquoi c'est plus fatigant d'être homme que d'être chat, très certainement. Mais en même temps, c'est absolument exaltant.
On va écouter Jean d'Ormesson qui, à mon avis, apporte un contrepoint que vous allez apprécier.
Ah. Eh bien oui, je dors beaucoup et peut-être pas assez. Je trouve que c'est commode de dormir et puis agréable. Et puis que ça permet d'oublier beaucoup de choses. Et particulièrement quand on est malheureux, je le dis d'ailleurs, dormir c'est tout à fait exquis parce que ça vous fait sortir de ce monde où on a quand même beaucoup d'ennuis.
Et vous dites aussi, entre le sommeil et la paresse, c'est peut-être encore à la paresse que je décernerai la palme.
Ah ben la paresse, c'est merveilleux parce qu'on abandonne les choses, n'est-ce pas ? On abandonne le monde.
C'est le sommeil dans la conscience, dites-vous.
Voilà, mais en s'en rendant compte. Bon, moi, je crois que c'est quelque chose d'exquis de se dire qu'on a à écrire une lettre à des amis ou qu'on a un travail à faire et de ne pas le faire en disant qu'on préfère volontairement laisser les choses se faire toutes seules ou bien peut-être par les autres.
Voilà, la paresse, selon Jean d'Ormesson.
Quel merveilleux cabotin.
Surtout qu'il écrivait 3 livres par an.
Bah évidemment, voilà, ouais. Évidemment. Alors la paresse, mon Dieu. Oui, elle ne m'est pas très sympathique. Un peu de paresse, ça ne peut pas faire de mal, et même ça fait beaucoup de bien. Un peu de farniente le samedi matin, grasse matinée, un peu de farniente au début des vacances, fort bien. Mais il me semble que la paresse, qu'il faut distinguer de la fatigue. Hein, parce que je dirais que la paresse, c'est une fatigue par anticipation. Ou une anticipation de la fatigue. Le paresseux se lève le matin... Que dis-je, le midi, il n'est pas du tout fatigué parce qu'il ne va rien faire, parce qu'il risque de l'être. Et même chez les plus absolus feignants qui existent dans le monde, il existe des êtres qui ne font rien parce qu'ils craignent la possibilité de la possibilité d'être fatigué.
Je crois qu'on a la même citation en tête, implicite, qui est, je ne sais plus de qui c'est, la paresse, c'est l'habitude prise de se reposer avant la fatigue.
Oui. Oui.
C'est qui déjà ?
Je ne sais pas.
Mais elle est dans votre livre, je crois.
Alors, je ne sais plus.
Ah, c'est Jules Renard, ça m'en revient.
Ah, c'est Jules Renard,
c'est
ça.
Le renard de votre veston. Voilà.
Mais je crois que le paresseux, non. Pour que le paresseux puisse paresser, se lover dans l'être, s'installer sur le mol édredon de la réalité, il faut que les autres soient industrieux. Et je ne crois pas du tout. Alors, justement, il y a un livre du gendre, pardon, de Karl Marx, ouais. Paul Lafargue, qui s'appelle Le droit à la paresse. Je l'ai lu à l'occasion de l'écriture de ce livre. Ça m'est pas très sympathique. Il dit à certains moments, ô paresse, baume des souffrances humaines, mère des arts et des sciences, il faut paresser en tout, sauf en paraissant. C'est pas vrai que la paresse est la mère des arts et des sciences. Les artistes, regardez ce que Mozart a fait en 30 ans de création, c'est prodigieux. Et d'Ormesson, vous le disiez très très justement.
Vous avez raison, c'est une petite posture.
Elle est délicieuse, hein, il est formidable. Mais je dirais que s'économiser, s'épargner, se réserver, paresser au fond, ça n'est pas un remède à la fatigue, c'est un symptôme de la fatigue. Il faut vraiment ne plus aimer la vie pour se réserver, s'économiser, s'épargner. Et je crois qu'aimer la vie, c'est prendre le risque de la fatigue, oui, et notamment de se fatiguer aussi pour les autres. On peut être fatigué par les autres, ouais, mais se fatiguer pour les êtres qu'on aime, c'est peut-être ce qu'il restera de beau quand nous quitterons cette terre. Je vais être d'un lyrisme exprès, excessif. Hein.
Bah, c'est mieux en tout cas de se fatiguer pour les autres que pour son ego.
Bah oui, je crois quand même, oui. Et puis ça divertit. Alors, dans mes soins, a tout à fait raison. Le sommeil, c'est l'oubli. On ne se couche pas que pour se délester de ses propres fatigues. On se couche pour se délester de soi. S'endormir, c'est s'enfoncer dans une étrange sphère d'oubli où l'on ne vit plus l'existence à la première personne, du moins à certains moments du sommeil. C'est délicieux de dormir, hein, mais il cabotine merveilleusement.
Éric Fiat, je vous lis. Je persiste à dire qu'il est bon de prendre le risque de la fatigue. La tête inclinée du Christ en croix n'est-elle pas signe qu'il a pris ce risque ? Ne l'a-t-il pas pris pour ne pas laisser seuls les brisés, claqués, crevés, échinés, épuisés, éreintés, exténués, flappis, fourbus, harassés, las, moulus, recrus, rendus, rompus, surmenés, cassés, rétamés, vannés, pompés, à plat, HS, lessivés, vidés, qui peinent à être en marche sur cette terre ? On comprend quand même votre dilemme, hein, dans la vie.
Oui,
philosophe, écrivain, musicien, violoncelliste. On voit que vous avez... Je pense que vous vouliez être écrivain à la base.
Oui, oui. Oh, j'aurais voulu être un artiste. Et puis...
Bah, vous jouez de la musique.
Venir, ça va peut-être venir.
Ce que les gens ne savent pas, c'est que quand vous donnez des conférences, soudain, le démon vous prend et vous imitez les gens. mais comme soudain, Johnny Hallyday se met à faire la conférence de philo, c'est assez particulier. Et puis, je voudrais vous faire réagir avant qu'on se quitte.
Vous me permettez un petit mot ?
Ouais.
Il y a un parfum de sacristie peut-être dans ma parole et dans les passages de ce livre que vous avez lu.
L'ode à la fatigue, Éric Fiat, aux éditions de l'Observatoire. Ouais.
Avoir la foi, c'est espérer plus souvent qu'on ne doute, disait saint Augustin. Je doute plus souvent que je n'espère.
Et vous doutez parfois de l'inexistence de Dieu ?
Oui, c'est ça. Ah bah oui, c'est très beau ça. Oui. Mais vous savez, il y a une preuve de l'existence de Dieu. Hein.
C'est Bach.
C'est Bach, c'est Suran, ouais, qui disait ça. Tous les philosophes théologiens chrétiens qui ont essayé de prouver l'existence de Dieu n'y sont jamais arrivés parce qu'ils ont oublié la seule preuve un peu convaincante de l'existence de Dieu, la musique de Jean-Sébastien Bach. Et dans ses carnets, il dit « Sans Bach, Dieu serait un pauvre type. Hein. » Bach croyait tout devoir à Dieu. Parce qu'au début de la plupart des compositions de Bach, il y a un SDG, Soli Deo Gloria, la seule gloire de Dieu. Suran dit, c'est pas du tout Bach qui doit tout à Dieu, c'est Dieu qui doit tout à Bach. Alors c'est vrai que quand j'entends tam pa da dam pa dam pa dam, j'ai un peu envie d'y croire, mais ça dure pas très longtemps.
Vous pouvez donner la référence précise de Bach, ce que vous venez de chanter ?
C'est le choral du veilleur. Et je l'ai pas.
C'est pas l'ode à la fatigue. Ça.
Non, c'est le choral du veilleur qui justement veille. Mais vous savez qu'il bon. Mais il ne faut pas toujours veiller.
Éric Fiat, la vie sans la musique est tout simplement une erreur.
Oui, oui.
Un exil, une fatigue. Alors c'est une citation de Nietzsche très connue. En général, on s'arrête au début. La vie sans la musique est tout simplement une erreur. Mais aujourd'hui, on écoute la suite. Un exil, une fatigue.
Et il y a des très belles pages de Nietzsche sur la fatigue. Et il était compositeur, vous savez.
Bien sûr,
et rien ne le défatiguait plus que la musique de Bizet, alors que la musique de Wagner le fatiguait.
Parce qu'il l'a trouvé lourde et lyrique, oui. C'est bien la preuve, pour remettre les points sur les i, qu'il n'était pas du tout nationaliste, il détestait bien les sûr. Allemands, il n'a eu de cesse de dire que les Allemands avaient une pensée trop lourdement métaphysique parce qu'ils mangeaient trop de viande bouillie et buvaient trop de bière. Donc voilà, comme après il a été récupéré par les nazis, bien de le préciser.
C'est très important.
Et lui, ce qu'il aime, c'est quand c'est sautillant, c'est la belle humeur. En allemand, on dit Heiterkeit. Et donc c'est Bizet contre Wagner.
C'est ça, et la musique de Bizet est défatigante.
Elle est défatigante, mais peut-être qu'on ne peut y accéder qu'avec la fatigue aussi.
Ah oui, ça certainement. Mais j'avais envie de parce que je fréquente beaucoup de soignants là, presque une prescription.
Ouais.
Comment, qu'est-ce qui défatigue ? Un fou rire, mais malheureusement, dont vous parliez tout à l'heure, malheureusement le fou rire ne se prescrit pas. Mais sinon, en effet, nager, rêver, la rêverie bachelardienne, les films de Funès. Et un dîner avec José Garcia. Rien ne me défatigue plus qu'un dîner avec José Garcia. Mais tout le monde n'a pas la chance de dîner avec José Garcia. J'avais envie de dire ça, vous voyez, je l'ai placé.
Ouais, bah vous avez bien raison. Et ce qui défatigue, c'est aussi de rencontrer des gens pour qui on se fatigue pour une noble cause. Et c'est là qu'on retrouve toute votre dialectique. D'un côté, une éthique du soin, et vous enseignez ça. Et de l'autre côté, une philosophie, justement, de la pudeur, ce qui était un autre de vos livres. Une philosophie aussi, je crois que vous travaillez, je sais pas si on a le droit de le dire, vous faites un énorme travail depuis longtemps sur le poil. Sur les poils.
Oui, oui, ça je viens de finir ce livre.
Ah, il sort quand ?
Je ne sais pas encore exactement, peut-être en avril. Oui, un grand traité des petits poils.
Eh bien, on a hâte de le lire. On comprend que vous n'êtes pas n'importe quel philosophe et je vais vous remercier d'être venu ce matin sous le soleil de Platon en essayant de dégager la philosophie de la vie. Alors j'hésite entre le lutin et le renard, évidemment. C'est un peu facile, mais une philosophie de la fatigue et de la défatigue. On comprend bien la dialectique. Ce qui est beau, c'est d'être fatigué pour une belle raison et de se défatiguer avec la musique, avec la contemplation, avec la rêverie, avec Bizet, avec Bach aussi. J'aurais envie de dire, évidemment, une philosophie de la rêverie et du soin, souvent, mais pas les deux en même temps. Mais dans votre œuvre, dans tous vos livres, dans votre travail, dans le master que vous dirigez, eh bien, il y a cette belle idée que, finalement, la fatigue nous ouvre à la possibilité de la rêverie, mais la véritable fatigue, celle qu'on supporte bien, c'est quand on a pris soin des autres, plus que de son ego, quand on a fait attention aux autres, et vous nous avez joliment montré que peut-être, pour faire attention aux autres, il fallait les aimer, évidemment, mais parfois, non, parfois, il faut juste les respecter, trouver les bons gestes, et c'est ce qui s'appelle l'éthique du care. Merci beaucoup, Eric Fiat, de nous avoir illuminés ce matin.
Merci beaucoup, Charles.
Cette émission a été préparée par Estelle Gap, Audrey Carme et Laura Dumez. À la programmation musicale, Valentine Chedebois. Elle a été réalisée par Antoine Larcher avec à la technique Loïs Moreau.